Bonjour à tous et bienvenue sur Calade, au sommaire de notre journal local et régional. La fabrique, les métiers de l'usinage, une filière trop mal connue des jeunes et leurs parents. Nous sommes accompagnés de Thierry Boulanger, dirigeant d'une société d'usinage à Saint-Germain-sur-Nuvelle et également fondateur de La Fabrique, une école de production à Villefranche. La cave coopérative de Fleury en Beaujolais, nous sommes accompagnés de Guillaume Manin, son président. Et en conclusion, exposition Une Afrique en couleur au musée Confluence à Lyon. La reprise de l'exposition jusqu'en juin 2023. Joint par téléphone Christian Sermet, responsable de service exposition au musée Confluence. Calade, le journal. Les lumières en ville, la magie à la nuit tombée révélée. Les lumières au pays de la sobriété et des coupes énergétiques. Les LED dans leur plus bel attrait. On la part belle. Les Lumières, c'est aussi un siècle éclairé. Un mouvement littéraire et philosophique européen du XVIIIe siècle, fondé sur la raison, opposé à l'obscurantisme. Bien besoin de vos lumières pour éclairer nos lanternes, des tumultes des éclairs qui envahissent et nous rappellent les heures les plus sombres dans l'obscurité de la guerre, la part obscure de l'humanité. La fabrique, les métiers de l'usinage, une filière trop mal connue des jeunes et leurs parents. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Thierry Boulanger, dirigeant d'une société d'usinage à Saint-Germain-sur-Nuelle, a fait de l'adage une réalité en fondant l'école de production La Fabrique, installée dans les locaux de la pépinière d'entreprise Criacité à Villefranche-sur-Saône. Les détails tout de suite avec celui-ci.
On va communiquer pour attirer les parents, les jeunes chez nous et leur faire découvrir ce que c'est que le métier d'usinage parce qu'il n'est pas souvent connu ce métier de l'usinage.
Un métier également qui ne fait pas forcément rêver quand on a 15 ans.
Alors les métiers industriels, lorsque vous regardez la carte des écoles ou des formations dans un rayon de 40 km, vous n'avez pas beaucoup d'écoles qui forment aux métiers industriels. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'industrie recrute et est en pénurie de main-d'œuvre. Je dirais, on comprend la difficulté des industriels à recruter si on ne forme pas nos jeunes. Le métier industriel n'attire pas forcément. L'industrie souffre d'un déficit d'image indéniable et il faudra des années et des années pour récupérer tout ça. Nous, à notre petite échelle, on va communiquer, on va essayer dans des salons, essayer dans les collèges de nous faire connaître. On va accueillir des jeunes en stage de troisième pour leur faire découvrir ce que c'est que le métier. Finalement, quand vous discutez avec des parents, mais qu'est-ce que c'est l'usinage ? Les gens ne savent plus ce que c'est. Avant, on avait autour de nous toujours un vieil oncle, un voisin qui était tourneur-fraiseur. C'était des métiers connus. Aujourd'hui, ce sont des métiers qui ont disparu de notre langage. Voilà, il y a un énorme travail et aujourd'hui, on a énormément d'industriels qui souffrent. Et moi, j'en suis un industriel qui souffre de cette pénurie, qui ne trouve pas de main-d'œuvre pour travailler.
Et c'est aussi un métier, puisque finalement, on est dans le numérique.
À l'école, on apprend déjà les bases de la mécanique. On apprend à scier, à limer, on apprend à travailler sur des machines traditionnelles, des machines avec des manuels. Et puis après, on oriente nos jeunes sur la commande numérique, fraisage, tournage, commande numérique. On a au sein de l'école de l'électro-érosion. On va leur apprendre la métrologie, on va leur apprendre du scanning 3D, on va leur apprendre l'impression 3D, on va leur apprendre la conception assistée par ordinateur, la fabrication assistée par ordinateur. La mécanique de précision, l'usinage, c'est des dizaines de métiers différents, mais c'est des métiers aussi qui peuvent être très très high-tech.
Donc là, c'est une promotion qui part pour 4 ans, c'est bien ça?
Alors, chaque année, on a notre entrée. Chaque année, au mois de septembre, on accueille une nouvelle promotion qui va, en 2 ans, préparer le CAP CP, conducteur d'installation de production, ou qui va, en 4 ans, préparer le bac pro technicien d'usinage. Voilà. Et chaque année, on recrute une nouvelle promotion qui va rester 4 ans avec nous.
Pour les parents peut-être, enfin les jeunes qui peuvent nous écouter, effectivement, à un moment donné, est-ce qu'on peut venir vous voir sur un stage d'observation et est-ce que vous accueillez ce type de choses? Parce que l'orientation, c'est un moment important dans la vie d'un jeune.
Alors, faire découvrir le métier d'usineur, faire découvrir notre établissement, c'est le meilleur moyen d'attirer nos jeunes. Et nos parents, convaincre nos parents de laisser leurs enfants étudier, faire des études sur une formation industrielle. On accueille des jeunes en stage de troisième. On accueille des stages pendant les vacances aussi, on peut. On peut aussi faire des portes ouvertes en permanence, appeler l'école et on vous prévoit un rendez-vous dans la semaine et vous venez découvrir nos ateliers. Ce n'est pas nous qui allons vous parler, parlons à votre enfant, c'est nos jeunes élèves qui vont parler au garçon, à la fille qui va venir visiter notre atelier. Donc entre deux jeunes, quand ils se parlent entre deux jeunes, ils se parlent un peu différemment et je pense que le message passe mieux.
Thierry Boulanger et son équipe sont à la disposition de toutes les interrogations à l'école de production La Fabrique, installée dans les locaux de la pépinière d'entreprise Créacité à Villefranche-sur-Saône. La cave coopérative de Fleury en Beaujolais. Valoriser les terroirs du Beaujolais et leurs appellations de renommée internationale, tel est le souhait des coopérateurs et celui du président Guillaume Manin.
250 adhérents à peu près.
Pour combien d'hectares ?
340 hectares cette année.
D'accord, donc sur de Fleury ou il y a d'autres communes qui viennent ?
Tous les crus du Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais Village, avec les communes alentours, oui. Non, pas que Fleury, non. Le Fleury représente à peu près 170 hectares sur la cave. Ça s'étend à peu près du sud, ça commence à peu près à Saint-Georges. Au nord, ça va jusqu'à Crèche. Et puis donc sur à l'est, Romanèche, Corcelles. Et puis à l'ouest, Vornard et Mringes.
Alors spécialement en Beaujolais, Crémant, Bourgogne ?
Ben, principalement Beaujolais, un petit peu de Crémant et puis un petit peu de Bourgogne blanc. C'est principalement vendu en vrac, avec une partie en bouteille de l'ordre d'à peu près 30%. Et puis sur cette vente bouteille, donc 10-15% sont vendus sur place. Et puis le reste se répartit à peu près moitié-moitié entre l'export et les ventes France. Une très belle année en tout cas au niveau de la qualité, ça c'est sûr, avec des vins qui sont très, très riches, très chauds, une belle qualité. Les grappes étaient en super état, il n'y a pas de défaut à ce niveau-là. Donc ça va être un millésime très prometteur, je pense.
Des raisins sains ?
Très très sains, ouais, exceptionnellement sains, franchement, quelque chose d'exceptionnel. Quoi. Ouais.
En degrés ?
Des degrés qui devraient être assez jolis, autour des 13-13,5.
Une qualité, peut-être une baisse de quantité aussi, hein, c'est ce qu'ils
disent. Oui, par contre, oui, une baisse de quantité due à la sécheresse. Quoi. Uniquement, c'est quasiment le seul impact qu'on a eu cette année. On a été très très peu touché par la grêle, pas de gel cette année au printemps, donc uniquement sécheresse.
Est-ce que, effectivement, le marché va laisser peut-être des personnes qui ne pourront pas être livrées ? Comment ça se passe ?
Sur nos ventes bouteilles, on aura suffisamment de volume pour répondre à nos ventes bouteilles, nos clients en direct. Après, la répartition se fera sur les ventes vrac. Comme d'habitude, on essaye de satisfaire au mieux de tous nos clients, suivant les habitudes qu'on a avec eux, l'antériorité et puis la fidélité de nos clients.
Au niveau des prix,
c'est un petit peu tôt pour le dire, mais ça devrait se stabiliser par rapport à l'année passée. On part un peu sur cette optique. Sur des fleuries, c'était par exemple à 400 euros l'hectolitre. Et puis sur les Beaujolais villages, autour des 300. On espère déjà un maintien des prix qui avait déjà une belle augmentation par rapport à la récolte 2020.
La sécheresse, est-ce qu'elle peut faire monter les prix ?
Du fait qu'elle baisse la quantité, oui, ça peut les faire monter. Après, on a une récolte qui globalement se situe dans les mêmes volumes que l'année précédente, donc ça devrait stabiliser les prix.
Quel est le souhait de la cave coopérative ?
Le point important, c'est de maintenir nos coopérateurs. Donc c'est une chose qu'on arrive à faire pour le moment. D'évoluer aussi sur la partie environnementale, la partie du bio qui arrive dans les années futures, là, déjà dès l'année prochaine, à une échelle un peu plus importante que ce qu'on a maintenant. Donc c'est d'évoluer un petit peu dans ce sens. Ouais.
Le fait de maintenir effectivement les viticulteurs, c'est-à-dire le départ à la retraite, c'est ça ?
Oui, le départ à la retraite, ouais, c'est un point de vigilance important où il faut bien anticiper les choses et essayer d'y travailler en amont. Quoi.
C'était Guillaume Manin, président de la cave coopérative de Fleury en Beaujolais. Expo, une Afrique en couleur au musée Confléance de Lyon. La reprise de l'exposition temporaire pour le plaisir des yeux jusqu'en juin 2023. Pour nous en parler, Christian Sermet, responsable de service exposition, il est joint par téléphone.
Alors on termine et on recommence, parce que l'exposition Une Afrique en couleur, c'est une exposition qu'on avait ouverte l'année dernière, et puis à cause du Covid, elle a fermé très rapidement, et on a trouvé dommage de ne pas la montrer au public, et on s'est dit, on a quand même investi du temps, c'est une exposition qui malheureusement n'avait été vue que par un petit nombre de publics et qui avait beaucoup apprécié. Donc on s'est dit, bon, on va la réouvrir. Et donc c'est ce qu'on a fait jusqu'en juin 2023. Alors là, elle s'intéresse à quelque chose qui est très peu connu finalement, c'est l'utilisation de la couleur dans l'art africain. Parce que dans les années début du XXe siècle, les artistes et les amateurs d'art africain se sont intéressés à des pièces, mais à des pièces qui leur revenaient dans un état qui n'était pas l'état d'origine, c'est-à-dire des collections qui étaient dépourvues de toute couleur, qui étaient dépourvues de tout ce qui était rajouté à la statuaire, c'est-à-dire des vêtements, c'est-à-dire des bijoux, c'est-à-dire donc beaucoup de couleurs. Et on s'est habitué, on a construit une espèce d'image fausse d'un art africain qui serait en ébène, qui serait noir, qui serait sombre et qui n'aurait pas de couleur. Donc là, on déconstruit cette fausse représentation de l'art africain et on lui redonne ses couleurs et on réexplique cette histoire.
Plus d'infos, museedesconfluences.fr. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.